bienvenue dans Destination CRFPA, un podcast réalisé par trois étudiants ayant obtenu leur examen en 2019 qui décortique pour vous toutes les étapes obligatoires à passer avant et après ce fameux examen. Conseils et astuces en tout genre, nous parlons sans langue de bois et en toute simplicité de tous les aspects de l'examen pour vous aider à mieux l'appréhender et à le réussir. Avant de commencer cet épisode, prenez 2 minutes pour rejoindre le Discord de l'émission dont le lien est en description. Vous y retrouverez tous les documents que nous mettons à votre disposition et vous pourrez échanger avec nous et le reste de la communauté pour répondre à toutes vos interrogations et vous permettre d'appréhender sereinement ce marathon qu'est le CRFPA. Merci et bonne écoute.
Défendre, c'est cela. C'est se refuser à accepter ce que autrui veut vous imposer.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Destination CRFPA que nous enregistrons donc le lundi 26 octobre 2020. Aujourd'hui, c'est sans Xavier que l'épisode se fait. Anthony est avec nous.
Salut.
Et nous avons le plaisir de recevoir Madame le professeur Christine Beau.
Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Anthony.
Bonjour Madame. Donc pour vous présenter succinctement avant que vous ne le fassiez vous-même, vous êtes professeur d'anglais. Vous étiez notre professeur d'anglais juridique pendant 3 ans et vous avez aussi des expériences multiples dans les examens des épreuves linguistiques au CRFPA et au CAPA. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, sans tarder. Antoine, est-ce que je peux me permettre juste de vous remercier avant de me présenter parce que c'est très franchement un grand honneur que d'être invité à contribuer à votre aventure de ce podcast qui m'a emballée dès que vous m'en avez parlé. Donc, je voudrais vous dire un grand merci pour me permettre d'y apporter une petite contribution ce soir. Donc, effectivement, je suis professeure d'anglais depuis 35 ans. Il y a 35 ans, j'ai passé l'agrégation et j'ai été nommée dans le secondaire, dans le nord de la France. Et puis, au bout de 4 ans, j'ai souhaité postuler pour l'enseignement supérieur. Et j'ai donc eu la chance d'avoir ce poste qui venait d'être créé sur le magistère de droit des affaires, fiscalité et comptabilité, que vous avez donc suivi ces 3 dernières années. Et au sein duquel j'enseigne depuis un petit peu plus de 30 ans et où j'ai la joie en fait d'enseigner à la fois l'anglais usuel puisque le programme s'étale sur 3 ans, donc l'anglais usuel, la rigueur grammaticale et l'anglais juridique avec la découverte du système juridique anglo-américain et un certain approfondissement de données de droit des sociétés, de droit des contrats, pour utiliser ce jargon juridique avant que les étudiants soient confrontés au milieu professionnel dans lequel ils évolueront dès qu'ils seront qualifiés. Voilà, c'est une très belle aventure et je suis ravie d'y avoir passé autant d'années et de continuer encore un petit peu.
Avant tout, merci beaucoup à vous d'accepter de venir parce que vous êtes, alors pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais vous êtes sûrement une des enseignantes les plus engagées qu'on a et vous suivez la formation et vous suivez les étudiants. Et nous, je me souviens qu'on a eu nos résultats du CRFPA pendant votre cours justement. On était en Master 2 et on a interrompu le cours. Je crois qu'on ne l'a jamais repris. Je crois que le cours n'a jamais repris ce jour-là. Mais en tout cas, c'est bien le moment puisqu'on était à Londres avec vous aussi. Donc vraiment, vous êtes le visage pour moi de l'enseignement de l'anglais à la fac. Je sais pas si, enfin, je pense que pour Anthony ce sera pareil, mais
ah oui, je pense que oui. Je ne peux que confirmer.
Donc merci de venir aujourd'hui sur notre antenne.
Mais je suis très émue de vos compliments et à mon tour de vous remercier. Le public du magistère est extraordinaire et des initiatives comme la vôtre, prendre en charge les plus jeunes au lendemain de vos résultats du CRFPA pour leur expliquer quels ont été les écueils sur la route qui vous a mené jusqu'à la réussite, mais aussi les moments de liesse, de joie, les moments de découragement pendant les révisions. Inviter sur votre podcast des gens qui peuvent apporter leur contribution pour aider les actuels candidats, les professionnels, les enseignants. Je me rappelle de Monsieur le Bâtonnier également, d'Aix-en-Provence. C'est formidable et c'est un partage fabuleux que de vouloir transmettre aux plus jeunes, alors même que vous êtes encore étudiant. Vous-même, c'est une belle aventure et je pense qu'elle va probablement prendre fin bientôt puisque ça va être la fin de ce voyage, la destination va être atteinte. Donc super, bravo pour cette initiative.
Alors avant d'arriver à la destination, on ne parlerait pas de l'anglais justement au CRFPA, du voyage vers le CRFPA en anglais. Donc vous êtes, Madame Beau, vous êtes jury au CAPA et vous l'avez été au CRFPA à Aix-en-Provence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la teneur de cet examen de la langue au CRFPA, s'il vous plaît ?
Oui, Antoine, tout à fait. Alors aujourd'hui, pour ce qui est de l'oral de langue, et vous faites bien de spécifier le mot langue, puisque aujourd'hui, les étudiants qui sont admissibles peuvent choisir entre différentes langues pour passer leur oral à la série d'épreuves d'admission. Ils ont le choix entre diverses langues suivant les IEJ. Et à Aix-en-Provence, par exemple, si mes souvenirs sont bons pour cette année, nous avons un éventail de langues qui vont de l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'hébreu, le chinois, je crois aussi, l'arabe. Donc, ça fait tout un panel de langues et il s'agit de la dernière année pour ce qui est de ce choix, puisqu'à partir de l'année prochaine, les candidats auront obligatoirement à passer un oral d'anglais. Ceci a été décidé dans l'arrêté de 2016 qui concerne les épreuves d'admission du CRFPA. Et à titre dérogatoire, cela fait 4 ans que le choix est conservé. Mais à partir de 2021, il n'y aura plus que l'anglais. Donc, l'oral d'anglais se présente sous forme d'un format qui peut varier d'un IEJ à l'autre. Mais dans la plupart des IEJ, peut-être que vous apporterez vous-même votre expérience de l'oral, puisque je crois que tous les deux, vous n'avez pas passé le CRFPA dans la même université. Mais dans la plupart des IEJ, l'oral d'anglais consiste en un commentaire de texte pour lequel vous avez 15 minutes de préparation et 15 minutes d'échange avec l'examinateur. Dans d'autres IEJ, il s'agit parfois d'un simple échange relativement spontané. Souvent, il est demandé à l'étudiant de se présenter, puis de présenter son projet professionnel. Donc, je conseillerais à chacun des candidats de se rapprocher de son IEJ pour savoir exactement en quoi consiste l'épreuve, parce que l'arrêté ne spécifie rien quant à la forme elle-même. Il est question simplement de définir l'évaluation du candidat, c'est-à-dire de mettre l'accent sur le fait que l'échange doit être ciblé sur un thème juridique, que le support soit un texte ou pas, mais sur un thème juridique dont il ne s'agira pas de noter autre chose que la possibilité par le candidat de communiquer en anglais et de manipuler le vocabulaire juridique. Donc, à aucun moment, il n'est dit que serait évaluée la culture juridique, la connaissance du système de droit étranger, voire l'aptitude du candidat à faire du droit comparé, on va dire, suivant le document sur lequel il est tombé. Il s'agit simplement de noter la maîtrise de la langue. C'est ça qui est en jeu, et c'est-à-dire communiquer dans la langue, comprendre et se faire comprendre, y compris en utilisant du vocabulaire juridique. Donc, chaque examinateur a sa propre liste de documents. Il n'y a pas de liste commune à tous les examinateurs. Chacun a sa liste de documents. Et le mot d'ordre, c'est simplement qu'il s'agit d'un document qui va traiter d'un thème d'actualité à teneur juridique. Voilà pour ce qui est du support de l'examen. Après, si, je ne sais pas si vous voulez parler de votre propre format d'oral, si ce n'était pas le même. Mais sinon, après, je vous exposerai les attendus et le déroulement de ces 2 fois 15 minutes pour le candidat.
Moi, c'était à Aix et c'était effectivement un petit commentaire d'un texte. Donc, c'était un petit article de journal. Ça prend même pas une page, hein, c'est très court. Et alors, pour le sujet, c'était, moi je me rappelle, mon sujet c'était un juge qui avait considéré que le droit pour un mari de faire l'amour à sa femme était un droit fondamental. Et donc le juge avait considéré ça, et donc on avait échangé avec l'examinatrice sur ce sujet. Mais voilà, effectivement, ça prenait la même forme que ce qu'a décrit Madame Beau. Et toi, Antoine, c'était comment à Paris?
À Paris, donc on n'avait pas de. Donc moi je l'ai passé à la Sorbonne, Paris 1. Et il n'y avait pas de texte, c'était une phrase. Et ensuite on faisait à peu près ce qu'on voulait. Et moi c'était la liberté de mouvement dans l'Union Européenne. Freedom of movement in the European Union. Et donc ensuite le format était. En fait, était très libre. Pas à quoi s'attendre les examinateurs, mais moi je sais que j'avais gardé le format du grand oral. J'avais fait une intro avec de l'actualité et puis ensuite une annonce de plan et un grand 1, un grand 2. Et ça s'était plutôt bien passé. Mais donc c'était une simple phrase. Et Xavier, je sais pas, il n'est pas avec nous ce soir. Anthony, est-ce que tu sais comment c'était chez lui,
Non,
à Avignon?
il me l'avait dit, mais je ne me rappelle plus.
Alors, le but, c'est un peu de briser la vitre. Madame Beau, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les attentes peut-être de l'examinateur de l'épreuve de langue au CRFPA, et puis qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui dérange, quels sont les finalement quel serait un peu l'étudiant parfait, quel serait l'étudiant qui a encore matière à progresser, un peu comment c'est de l'autre côté?
Bon, alors écoutez, on va essayer de vous révéler quelques petites choses, en particulier dues à mon expérience personnelle au fil des années et de ces interrogations orales. D'abord, ce à quoi s'attend l'examinateur. Si on utilise un cadre très rigoureux, c'est vrai que on utilise au CFPA une grille qui est une grille de critères d'évaluation qui est utilisée dans le cadre européen de référence pour les langues. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces examens européens pour lesquels on obtient des résultats qui s'étalent d'un niveau élémentaire qualifié de A1 au niveau où on parle la langue couramment qualifié de C2. Et pour ceux qui sont familiers de cette grille d'évaluation européenne, le CRFPA utilise des critères qui correspondent au niveau B2 du cadre de référence. Hein. Donc, en fait, on s'attend dans l'absolu, pour être très rigoureux dans la définition de ce niveau B2, il est défini comme le candidat pouvant prouver qu'il sait. Entrer dans un discours qui est argumenté, qui est bien informé. Il utilise la langue de manière pertinente, une langue qui est syntaxiquement correcte, lexicalement correcte et fluide. Donc, l'idéal, quoi. Donc, pour parler de choses pratiques, si vous voulez, moi, ce à quoi je pensais pour parler de cet oral, c'était voir. C'est de la façon dont le candidat doit gérer ces 2 quarts d'heure, le quart d'heure de présentation et le quart d'heure ensuite d'échange avec l'examinateur. Antoine, je vous ai entendu dire que vous aviez abordé l'oral comme le grand oral, c'est-à-dire que vous avez considéré avoir une introduction bien construite, puis suivie d'un plan. Je sais que les juristes sont très strict quant au format de ce plan en 2 parties, 2 sous-parties, je crois, peut-être que je me trompe. Sachez que l'oral de langue, le professeur s'attend à ce que vous utilisiez la langue de la manière la plus pertinente possible. Si le commentaire est structuré, C'est formidable, mais oui, c'est un plus, à condition, et là je mets en garde tous les candidats qui préparent des introductions et des plans un peu fictifs, figés avant même l'épreuve, pour se raccrocher à ça le jour de l'épreuve, quel que soit le document, et qui ensuite ne suivent pas le plan qu'ils ont annoncé. Alors ça, j'avoue que c'est particulièrement énervant, parce qu'on se dit, mais il a annoncé en deuxième partie, par exemple, hein, il a annoncé en deuxième partie son opinion sur le problème soulevé dans le document, et en fait, il a conclu, mais à aucun moment il n'a donné son opinion. Donc, si vous citez un plan, ce qui est important, c'est de le suivre après, dans votre exposé en anglais. Sinon, j'avoue que on est beaucoup moins rigoureux qu'à une épreuve de droit. On sait très bien que les étudiants doivent montrer leur capacité à communiquer, mais sont aussi nerveux, c'est un oral. Ont peu de temps, ils n'ont que 15 minutes pour lire et pour préparer, je vais revenir là-dessus. Et donc, il va falloir qu'ils fassent un exposé très rapide. Donc, si l'anglais est fluide, mais que ça manque de structure, ce n'est pas dramatique. Bien sûr que c'est un plus si vous avez eu le temps de structurer votre exposé oral. Donc moi, ce que je donnerais comme conseil aux candidats quand vous démarrez, quand vous arrivez dans la salle pour tirer votre sujet, avant tout, un truc tout bête, mais n'hésitez pas à demander en anglais, bien sûr, à votre examinateur, si vous avez le droit d'annoter le document ou de surligner le document. En général, les examinateurs utilisent plusieurs fois le même document s'ils ont plusieurs journées d'interrogation. Et ben, en général aussi, ils ont plusieurs exemplaires du même document. Mais c'est toujours très poli et ça met en route la relation de personne à personne. Si l'étudiant arrive et dit Can I highlight the text, please? Can I put some remarks down in the margin, etc. Et l'examinateur vous répondra, et là vous serez beaucoup plus à l'aise parce que vous allez gagner du temps. Tous les étudiants utilisent des stabilos, des surligneurs. Si vous pouvez, dès la première lecture, gagner du temps en surlignant les éléments du texte qui vous paraissent super importants, et vous allez les relever après pour pouvoir développer sans avoir besoin de rédiger. Donc, vous gagnez du temps à ce niveau-là. Vous lisez le texte, la lecture doit être rapide. Ici, je peux vous encourager à vous préparer à cette épreuve. Bien sûr, vous ne saurez pas sur quel type de texte vous allez tomber, mais pour vous préparer, essayez de lire de manière cursive la une des journaux que vous trouverez sur Internet. Un certain nombre de journaux appellent à une souscription, donc sans aller jusqu'à prendre un abonnement au journal, mais vous allez avoir les gros titres et les 10 premières lignes des articles. Et ne serait-ce que ça, même si vous approfondissez pas, apprenez à lire vite un document en anglais. Vous pouvez regarder le New York Times, le Herald, le Guardian. Moi, je conseille aussi de regarder la Gazette de la Law Society, qui est un magazine pour les solicitors en Angleterre, mais qui malgré tout se lit par n'importe qui, le grand public, n'importe quel profane, ce n'est pas technique et c'est sur des thèmes juridiques, bien sûr. Donc c'est un bon entraînement de lecture à ce niveau-là. Donc une fois que vous aurez lu le document, il va falloir, comme vous a dit Antoine, l'introduire. Anthony, non, c'est Anthony qui disait ça, pardon, c'est Anthony qui a eu un texte à Aix. Antoine, c'était une phrase. Donc, il va falloir introduire le document, donc l'extraire du journal ou du magazine ou du tout autre support pour le présenter. Et là, très souvent, je dois dire que quelque chose qui m'énerve beaucoup, moi personnellement, mais je crois que je ne suis pas la seule au niveau des examinateurs, c'est, et les étudiants, Antoine et Anthony, entre autres, vous avez dû m'entendre le dire déjà, c'est quand vous extrayez le document de son ensemble, de son journal, vous aimez citer la date à laquelle le journal a été publié. Et il y a régulièrement des fautes sur la lecture d'une date en anglais. Ça paraît tout bête, Je crois que vous tous, les candidats qui nous écoutez, si vous faites le bilan, il doit y avoir plus de 10 ans que vous suivez des cours d'anglais, que vous parlez anglais. Et pour autant, bah, citer une date, on ne le fait pas tous les jours et il y a souvent des erreurs là-dessus. Donc, si vous parlez, je crois qu'on est 26 octobre aujourd'hui, si vous dites que l'article est extrait du journal du Guardian du 26 octobre 2020, dites que it has been published on the 26, 26, j'ai dit 26 octobre 2020, mais rien d'autre. Et si vous n'êtes pas sûr de vous pour la lecture de la date, dites simplement que c'est un article du mois d'octobre 2020. Vous éviterez de faire la faute sur le 26, voire s'il a été publié la semaine dernière, vous dites que c'est un article récent et tout le monde est content. Voilà. Et vous évitez la faute banale de la date qui a été mal mentionnée. Deuxième chose, quand vous citez un journal, ne vous aventurez pas à dire que le New York Times est un journal anglais hebdomadaire. Quand en fait c'est un quotidien américain. Si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux ne pas broder là-dessus, hein, et citer simplement le nom du journal. Donc vous allez dans votre introduction présenter le texte comme un extrait de ce journal, un extract of, ou bien un excerpt from, et par la suite vous allez annoncer le thème du texte. Lorsque vous avez lu votre texte, il aura fallu que vous accordiez de l'attention au titre de votre document, parce que le titre est évocateur, il est révélateur, il peut être un peu mystérieux des fois, il peut y avoir un jeu de mots que vous allez exploiter, mais sinon, il va nécessairement attirer l'attention du lecteur sur le sujet même de l'article qui suit. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant et à souligner le thème qui est évoqué dans le titre. Ensuite, on s'attend de vous, si vous annoncez la structure de votre commentaire, ne compliquez pas trop les choses et faites en gros deux parties, je dirais. La première va consister à rapporter l'histoire qui est évoquée dans l'article de journal, à en donner les faits, parce que ça permettra de montrer à l'examinateur que vous avez compris le texte. Donc, relatez les faits, mais surtout, évitez de citer à outrance. Ça rassure certains candidats que de citer le texte, mais si vous faites une citation d'une partie d'une phrase, c'est une chose, mais surtout ne citez pas à outrance pour faire du remplissage, parce que là, on se dira que vous savez pas quoi dire et que donc on ira vous chercher après dans l'échange une fois que vous aurez fini votre commentaire. Et c'est un petit peu dommage, ça donne pas une bonne impression de vous-même. Donc, présenter les faits du texte, c'est ce que vous allez faire en premier, une espèce de résumé de ce que vous aurez lu. Et ensuite, donner votre point de vue sur le problème soulevé par le texte. Il y a sûrement un problème quelque part, puisque le texte doit être d'actualité à teneur juridique, hein. Donc, ce problème que vous aurez repéré, ben vous êtes des futurs avocats, donc il va sans dire que vous savez argumenter, vous savez défendre un point de vue. Et on va vous demander de faire ça en anglais. C'est là que vous pouvez au préalable vous préparer en essayant de vous faire des fiches de vocabulaire pour vous permettre après d'avoir un éventail d'expressions pour défendre un point de vue, pour citer votre opinion. Pour comparer des événements, des phénomènes, etc. Et ça, c'est très important pour pouvoir vous exprimer de la manière la plus fluide possible. Donc, a priori, on attendra ça de vous, un résumé et un point de vue personnel par la suite. Enfin, c'est toujours très dommage que de voir un candidat finir en baissant la tête. Il n'y a pas de mot de conclusion, la boucle n'est pas bouclée, et du coup, l'examinateur prend la main et risque de poser des questions qui vont peut-être vous perturber un petit peu parce que vous ne pouvez pas trop développer sur le thème en question. Essayez dans votre conclusion, faites une conclusion. On a toujours des petites expressions qui reviennent, des fois qui sont un peu énervantes, puis ça fait 10 fois qu'on l'entend, du style to put it into a nutshell, qui plaît beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ça plaît beaucoup, peut-être parce que y a une métaphore dedans. Mais il y a plein de façons de conclure un commentaire. By way of conclusion. Ou bien accordingly, I would like to say that I would like to finish my commentary on this remark. Et puis, si vous voulez, si vous avez la possibilité de le faire, essayez de ramener le thème que vous avez trouvé dans l'article à l'actualité en France. Si vous vous exprimez en anglais, vous pouvez très bien parler du système français, c'est celui que vous connaissez. Et je vous rappelle que vous n'êtes pas évalué sur la culture du système étranger, de la langue étrangère, et ça vous permettra d'orienter les questions qui vont suivre sur la conclusion où vous aurez été amené à la fin de votre exposé. Donc, essayez de conclure, c'est plus rigoureux et ça donne effectivement l'impression que vous avez bouclé votre travail. À la suite de cela, vous allez avoir un échange avec le professeur, un échange qui peut porter soit sur des éléments du texte, c'est-à-dire, par exemple, que l'examinateur aura pensé que vous avez complètement éludé une partie du texte et va essayer de savoir si c'est parce que vous ne l'avez pas compris ou si c'est juste parce que ben, ce n'est pas apparu dans votre commentaire, vous n'avez pas eu le temps de l'insérer pendant les 15 minutes de préparation. Donc, on risque de vous poser des questions précises sur le texte, voire même sur des mots spécifiques du texte qui paraissent importants et du coup, on veut s'assurer que vous avez compris le texte en détail. Ou bien alors, justement, on peut reprendre votre conclusion pour ouvrir le débat. Et puis enfin, on peut essayer de dire aussi, bon, bah, très bien, vous avez fait un commentaire tout à fait correct sur le texte. Maintenant, parlons un peu à bâton rompu de vous. Vous êtes assis là pour un examen du CFPA. Ça veut donc dire que vous voulez être avocat. C'est votre vocation. Qu'est-ce qui vous motive? Où est-ce que vous vous voyez dans 3 ou 4 ans? Et là, ça, je m'adresse à chacun d'entre vous. Ça, vous pouvez le préparer pour vous rassurer, sans le réciter le jour J, mais le préparer pour avoir bien sûr des idées. C'est le métier vers lequel vous vous tournez, donc vous ne manquerez pas d'idées, mais pour avoir les outils linguistiques qui vous permettront de vous exprimer sur le sujet. Quelle est votre spécialité? Est-ce que vous êtes mobile? Est-ce que vous auriez envie de travailler à l'étranger? Pourquoi la profession d'avocat, etc. Et le but, c'est toujours pareil, c'est de vérifier qu'on vous comprend et que vous comprenez. Et là, il y a le côté spontané de la communication. Il y a cet aspect interactif de l'échange qui peut porter sur n'importe quel sujet, mais qui peut porter aussi uniquement sur le texte et pour tester le vocabulaire juridique que vous saurez maîtriser. Voilà pour ce qui est pour moi de l'épreuve elle-même, en sachant que les étudiants qui maîtrisent bien la langue sont tout à fait valorisés. Il n'y a pas d'hésitation à mettre de très bonnes notes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'étudiants qui parlent pas mal du tout l'anglais, qui ont eu des expériences à l'étranger, qui ont eu la chance de voyager aussi, mais aussi qui ont fait des stages à l'étranger ou qui ont pris une année sabbatique à l'étranger avant même de passer le CFPA. Et du coup, on a la chance d'avoir pas mal d'étudiants qui parlent bien. Si jamais ce n'est pas votre cas, pas de panique. On ne vous laissera pas tomber au bout de 3 minutes parce que vous n'avez plus rien à dire et qu'on a l'impression que vous avez de grosses difficultés à parler. 15 minutes vous sont consacrées et pendant 15 minutes, on essaiera de tirer le meilleur de vous-même pour valoriser le niveau d'anglais qui est le vôtre. Voilà,
Ok.
je crois que c'est ce
Ben,
que je voulais dire.
je pense que c'est très précieux tout ce que vous dites là pour les gens qui nous écoutent. Et moi, le premier, j'aurais bien aimé vous avoir entendu à l'époque où je l'ai passé. Franchement, je trouve ça vraiment très très complet. Alors, moi, peut-être juste une petite question supplémentaire. Le plus dur, moi, je me souviens pour mon épreuve en tout cas. C'est vraiment le démarrage, c'est-à-dire que les toutes premières phrases qui engagent mon commentaire, c'est celles-ci qui sont les plus dures. Et après, une fois que la machine est plus ou moins lancée, ça se passe plutôt bien. Et du coup, je voulais vous demander, bah déjà, quand on rentre dans la salle, comment, à votre avis, est-ce qu'on doit s'adresser au professeur? Puis ensuite, une fois qu'on s'assoit, pour introduire le fait qu'on va commencer à parler, est-ce que vous auriez des petits conseils là-dessus?
Oui, pourquoi pas, toujours basé sur mon vécu par rapport à ça. Alors c'est vrai que moi j'apprécie beaucoup l'étudiant qui rentre en disant bonjour, parce que toute situation de communication commence par ce bonjour, hein. Donc en anglais, hello, good morning si c'est le matin, good afternoon si c'est l'après-midi. On sait que l'étudiant est nerveux, donc c'est le professeur qui va s'adresser, je pense, à l'étudiant, c'est ce que je fais moi, pour lui expliquer qu'il va tirer un papier pour prendre son texte, etc. C'est là que je vous disais, n'hésitez pas à demander. Quand vous dites thank you, c'est tout bête, mais c'est un oral d'anglais. Et l'anglais commence lorsque vous ouvrez la porte de la salle. Il n'y a pas de raison, y a pas de raison de parler en français par rapport à ça. Peut-être que le professeur va vous demander vos papiers pour s'assurer que vous êtes bien la personne qui est attendue sur sa liste. Donc on risque de vous dire Do you have an ID card, please? Or a passport, or anything like this. Et plutôt que de répondre oui de manière nerveuse, n'hésitez pas à répondre en anglais, yes, of course, here it is, ou bien yes, of course, let me get it in my bag, etc. Et ensuite, excuse me, can I highlight the text, or can I write anything on the text? Ça, c'est pour l'entrée dans la salle de classe avant que vous alliez préparer. Lorsque vous avez préparé et qu'on vous invite à vous asseoir, il y a forte chance que le professeur vous dise Please have a seat. L'autre candidat est sorti, on vous appelle Please have a seat. Et là, on sait que l'étudiant est nerveux, bien sûr qu'on le sait. Et c'est pour ça que très souvent, enfin, très souvent, non, j'exagère, je reprends ce que je dis, pas nécessairement très souvent, mais il arrive que les examinateurs demandent à l'étudiant de lire quelques lignes. Ce n'est pas du tout systématique, moi personnellement, je ne le fais pas, parce que j'ai plutôt envie de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais certains examinateurs le font en disant pour certains que c'est pour mettre l'étudiant à l'aise au début. Comme vous venez de le dire, le démarrage est difficile, il faut roder la machine. Quand on met le contact au moteur, on a besoin de faire chauffer un tout petit peu. Et là, on sait que l'étudiant a besoin cette petite transition avant de pouvoir réellement se lancer. Et on est attentif à ça, hein. On n'ignore pas qu'il y a ce démarrage toujours un petit peu difficile. Donc, certains font lire en disant ça les met en confiance que de lire 3 lignes, hein, pas plus, mais ça les met en confiance. Et la deuxième chose, là où il faut faire très attention, c'est si on vous demande de lire, vous allez être évalué dans votre lecture. C'est-à-dire que c'est pas juste pour vous mettre en confiance, mais c'est aussi pour savoir si vous comprenez ce que vous êtes en train de lire. Et là, mon conseil, c'est faites très attention à non seulement la prononciation, mais l'intonation. L'intonation est extrêmement importante pour véhiculer le sentiment que vous comprenez ce que vous lisez. Et ça, c'est primordial. Si vous avez des ruptures dans la prosodie, il y a une musique à l'anglais, hein. Il y a des accents de mots, il y a des accents de phrases. Et s'il y a des ruptures intonatives au mauvais endroit, c'est sûr que l'examinateur va se dire, bon, bah, il lit, mais il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il est en train de lire. Hein. Donc ça, il faut faire très attention. Ce n'est pas juste pour se mettre en route. Ça fait aussi de l'évaluation, mais ce n'est pas obligatoire. Donc quand vous démarrez votre exposé, il y a pas mal de candidats qui notent des phrases complètes pour l'introduction, pour justement prendre confiance au début, en se disant, bon, ben là, au moins, je sais que j'ai tout noté sous forme de phrases et j'aurai mon papier et je vais pouvoir lire mon introduction. Pour démarrer. Alors ça, je trouve que c'est un peu dommage, d'abord parce qu'on perd du temps à noter des phrases complètes. Donc pendant votre préparation, le temps va vous manquer si vous commencez à noter des phrases complètes. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a une indulgence de la part des examinateurs pour les 2 premières minutes, parce qu'on sait qu'on est nerveux. Ce n'est pas notre langue maternelle. L'enjeu est important. Même si je vous rappelle que l'oral d'anglais est affecté du coefficient 1 pour les épreuves d'admission, là où l'exposé discussion est affecté du coefficient 4, donc c'est absolument pas négligeable, c'est une note sur 20. Mais on est indulgent au début parce qu'on sait que le véhicule au niveau de la communication, là, l'outil rend un peu nerveux parce que c'est pas. L'outil de sa langue maternelle qui permet de s'exprimer exactement comme on le souhaite. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer quand on vous dit have a seat. Vous pouvez enchaîner sur may I start et may I start va donner le feu vert de votre commentaire. Et voilà, si on vous répond oui avec un sourire, je pense que vous démarrez sans trop de soucis.
Ok, oui, c'est vrai que moi, je me souviens que j'avais fait exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que j'avais écrit les premières phrases de mon introduction. Mais bon, pour le coup, ça m'avait bien servi parce que j'étais assez. Enfin, je me suis dit, au moins, j'ai ça, et après, comme vous dites, la machine se met en route. Et personnellement, ça m'a pas pris. Enfin, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai pas manqué de temps, et j'ai trouvé ça utile de les avoir. Je les ai pas vraiment lus, mais je savais que je pouvais me reposer dessus au cas où. Antoine, t'as peut-être d'autres idées qui te viennent en tête ou pas?
Bah, juste un truc, c'est que, enfin, moi je sais que l'anglais, quand je le parle pas pendant un certain temps, j'ai souvent un problème d'élocution quand je me remets à le parler. Alors c'est plus, c'est un conseil, après vous en faites ce que vous voulez, mais je sais que la semaine qui avait précédé l'examen, je me parlais tout seul en anglais, et le jour de l'examen, donc moi c'était à Paris, j'avais dû traverser Paris, et je l'avais fait à pied, en fait je me parlais en anglais. Dans la rue, mais juste pour parce que enfin mine de rien les mouvements de la langue, de la bouche, de la lèvre sont pas les mêmes des lèvres et je crois que c'est très dur quand on n'a pas parlé anglais depuis longtemps de d'un coup basculer du français à l'anglais et sur l'élocution des fois c'est peu clair. Alors je sais que l'accent français est redoutable parfois, je suis pas sûr qu'au grand oral qu'à l'oral ce soit le cas, mais donc voilà, peut-être si vous avez l'occasion de vous faire travailler avec des copains, de parler anglais avant ou même tout seul, si vous êtes tout seul, ça peut être pas mal.
Oui, si je peux me permettre ici, je trouve que c'est une excellente idée. Parler avec des copains, on n'a pas tous des copains anglophones, mais des copains qui peuvent avoir la répartie en anglais avec vous, qui rentrent dans ce jeu-là pour l'entraînement. Vous avez entièrement raison, Antoine. Le système phonologique est différent et le rythme aussi du discours peut être très variable. Donc, je trouve que c'est une excellente idée et je trouve ça trop mignon de vous imaginer dans la rue. Avant d'aller démarrer votre épreuve en parlant tout seul en anglais, au platane que vous venez de dépasser ou à l'abribus qui est désormais derrière vous. Mais c'est génial parce que voilà, tout ce qui compte, c'est d'essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour s'entraîner. Et c'est vrai que j'ai parlé de lecture, de conseils pour la lecture, de conseils aussi, si je peux rajouter au niveau de la syntaxe, on parle de fluidité autant que possible. C'est vrai que la fluidité se démontre encore plus lorsque on utilise les rouages du discours au lieu d'avoir des phrases juxtaposées. Après, chacun selon ses capacités, bien sûr, et ses compétences. Mais si vous avez quelque chose à revoir sur le plan lexical et syntaxique, je pense que les mots de liaison sont importants. Il ne s'agit pas de les accumuler parce que ça serait beaucoup trop lourd dans la situation du discours, mais des mots de liaison qui permettent de passer d'une idée à une autre. S'il s'agit de la conséquence, accordingly, consequently, so, s'il s'agit de la concession, however, nevertheless, yet, etc. S'il s'agit de la raison pour laquelle on fait quelque chose. Bref, les mots de liaison sont super importants. Donc, j'ai parlé tout à l'heure au niveau lexical de l'argumentation et de l'opinion, mais pensez aux mots de liaison en anglais aussi, parce que ça rend votre discours beaucoup plus fluide et ça lui donne un squelette, quoi. Hein, il tient debout, il tient debout à ce moment-là.
Super. Anthony, je crois qu'on a fait le tour.
Ah, je pense que là, on a quelque chose de très complet. Et encore merci, Madame Bou, pour tous ces très précieux conseils. Je me doutais que vous alliez bien préparer ce que vous alliez dire, mais je ne pensais pas que ça serait aussi complet. Et je pense que là, les gens qui nous écoutent ont plus que toutes les cartes en main pour comprendre l'épreuve et ce qui est attendu d'eux. Donc vraiment, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et conseils.
Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que j'ai été très heureuse d'être non pas à vos côtés, parce que je sais que voilà, vous êtes devant votre ordinateur de votre côté, mais tous ces étudiants qui sont aujourd'hui admissibles et qui ont dû fêter ça dûment le soir des résultats doivent être aujourd'hui, je suppose, en plein travail de préparation pour les oraux. Merci à vous, les aînés, de les aider à se prendre en main et à écouter vos conseils. Et puis à vous, les candidats qui allez passer ces deux épreuves orales, je vous souhaite le meilleur pour finir ce parcours en arrivant à destination. C'est un sprint final maintenant. Il vous reste quelques jours, peut-être quelques semaines pour d'autres. Je vous souhaite bonne chance. Best wishes to you all. Have a good time with the exams and I wish you all the best for your success. Merci Antoine, Anthony et Xavier.
Pour que l'entraide continue, n'hésitez pas à rejoindre le Discord Destination CRFPA dont le lien est en description. Vous y trouverez non seulement tous les documents que nous mettons à votre disposition, mais vous pourrez également échanger avec nous et les autres membres de la communauté afin de se serrer les coudes et de mettre toutes les chances de votre côté. Pour ne louper aucun épisode du podcast, pensez à vous abonner au podcast sur votre application et à suivre notre page Facebook Destination CRFPA. Toute l'équipe vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée.